France Inter, le 7-9.
Il est 7h49, Léa Salamé, vos invités ce matin sont deux journalistes qui s'interrogent sur la relation du pouvoir et de la presse.
Bonjour à vous Ariane Chemin.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Monde, vous êtes celle qui a révélé l'affaire Benalla en juillet dernier et vous avez été entendue hier par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour avoir dévoilé le nom d'un ancien membre des forces spéciales dans le cadre de cette enquête Benalla. Bonjour à vous Benoît Colomba.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à la cellule d'investigation de Radio France et vous avez aussi été convoqué par la DGSI qui, sur une autre affaire, la DGSI qui vous reproche d'avoir publié une note confidentielle des renseignements militaires sur la vente d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et surtout sur l'utilisation de ces armes françaises dans la guerre au Yémen. J'ajoute que 7 autres journalistes ont aussi été convoqués ces derniers jours par la DGSI. Ariane Chemin d'abord, comment s'est passé le rendez-vous à la DGSI hier ?
C'est d'abord une expérience journalistique, parce que même si c'est la DGSI, pas la DGSE, ça ressemble quand même un peu au bureau des légendes. On arrive au quatrième sous-sol, c'est gris, il y a des néons, une paire de menottes qui pendouillent à côté de vous. Vous êtes interrogé dans un cadre qui est normalement réservé à des personnes soupçonnées de terrorisme ou des terroristes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'une erreur de casting. Un peu, c'est ça qui m'a le frappé le plus, mais vous voyez, je suis pas traumatisée. Et surtout, j'ai davantage pensé à des jeunes journalistes comme ceux de Disclose ou qui n'avaient pas derrière eux un journal influent ou une rédaction influente comme à Radio France et au Monde. Là, je pense que c'est plus compliqué pour eux que pour moi.
Comment ça se passe ? Combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on vous demande ?
Une petite heure, on vous demande de décliner votre identité, après on vous pose beaucoup de questions, et vous pouvez évidemment choisir de garder le silence ou ne pas répondre parce que vous pouvez vous abriter, ce que j'ai fait dans une déclaration liminaire, derrière la loi sur la presse qui nous protège de 1881 et qui, à son article 2, précise que vous pouvez conserver le secret des sources.
Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ?
Il voulait savoir, alors c'était fait de manière habile, je trouve. On m'a pas demandé directement quelles étaient mes sources. On m'a précisé que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Benalla, ce qui est totalement faux, puisque le titre de l'article comportait ces deux mots, affaire Benalla, deux points. Et on a essayé de savoir comment j'avais vérifié mes informations. Et surtout, on a essayé de m'expliquer en lisant les articles de presse, en me lisant les articles de loi et en me posant 1000 questions, que ce que j'avais fait était très grave. J'étais là comme suspect.
En fait, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir révélé l'identité, dans le cadre de l'affaire Benalla, l'identité d'un membre des forces spéciales, ce qui est interdit par l'article 413-14 du Code pénal, selon lequel les forces spéciales doivent rester anonymes parce qu'elles mènent des activités dangereuses et qu'il est interdit de divulguer leur identité.
Oui, enfin, j'ai pas révélé le nom de Chokri Boakrim. Nous avons raconté qu'il était un ancien des forces spéciales. Alors là, je tiens à rappeler le contexte. Hein. Chokri Boakrim, c'est un ami d'Alexandre Benalla. C'était le compagnon du chef de la sécurité de Matignon, qui quand même, la pauvre, a été obligée de démissionner à cause de cette affaire. Je rappelle qu'il y a une enquête qui est ouverte pour corruption au parquet national financier, puisque Chokri Boakrim est soupçonné d'avoir participé à un contrat qui a été noué entre Alexandre Benalla, au cœur même de l'Élysée, il y était encore, avec un oligarque russe proche, dit-on, de milieux pas très fréquentables en Russie.
Donc vous dites que j'étais obligée de donner son nom parce qu'il était au cœur de l'affaire Benalla.
Ce que j'ai expliqué à la
policière, c'est la liberté d'information.
C'est surtout réfléchi, pesé, on n'a pas fait ça n'importe comment, ça me paraît être un intérêt légitime pour le lecteur.
Benoît Colomba, vous avez vous aussi été entendu par la DGSI il y a 2 semaines pour avoir donc révélé cette note confidentielle des renseignements qui affirmait que oui, les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite sont bien utilisées au Yémen contre des civils et contre des enfants. On vous reproche d'avoir violé, vous, le secret défense. Est-ce que vous aussi, vous avez refusé de répondre, comme Ariane Chemin, aux questions de la DGSI ?
Oui, absolument. J'ai également fait une déclaration liminaire. Si vous voulez, ça a duré un peu moins d'une heure. On m'a posé des questions sur la façon dont j'ai travaillé, avec qui j'ai pu être en contact, est-ce que j'avais accès à tel ou tel document. Évidemment, on ne répond pas à ce type de questions. Si vous voulez, ce que je trouve préoccupant, au-delà même de l'audition en elle-même, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'avec la multiplication de ces auditions de journalistes à la DGSI, on a l'impression, finalement, que c'est une logique antiterroriste qui est appliquée au journalisme. On parle de l'affaire Benalla, c'est une affaire d'État, on parle des armes françaises au Yémen, c'est un mensonge d'État. Et là, on est dans un cadre qui est ailleurs. On n'est pas dans le cadre traditionnel du droit de la presse, de la loi de 1881, devant les tribunaux devant lesquels on peut se défendre dans ce cadre-là. Et là, c'est un peu comme si on criminalisait finalement le travail journalistique sur des sujets qui sont d'intérêt général.
Mais en fait, il y a 2 principes qui s'opposent dans ces affaires-là, pour que les gens comprennent bien. Il y a, et qui ont d'une certaine manière chacune leur logique. D'un côté, un État qui dit « j'ai besoin du secret, j'ai besoin du secret défense », ça fait partie de ce qu'est un État. Et de l'autre, il y a les journalistes, dont vous, qui invoquez la nécessaire information du public et le secret des sources. Est-ce que ces 2 principes ne sont pas également légitimes ?
Non, pas également légitime. D'abord, je pense que Sibeth Ndiaye s'est trompée.
Alors, Sibeth Ndiaye a dit « Les journalistes sont des justiciables comme les autres ».
Mais c'est vrai dans la vie quotidienne, mais c'est pas vrai dans l'exercice de leur métier.
Donc expliquez pourquoi, pour les gens qui nous écoutent, pourquoi Ariane Chemin, si elle vole dans un magasin, c'est du droit commun, et donc elle est injusticiable comme un autre. En revanche, Ariane Chemin, dans le cadre de son travail, de son enquête sur Benalla, n'est pas une justiciable comme une autre. Expliquez pourquoi.
Parce que j'estime qu'il fallait raconter. D'ailleurs, ce Chokri Bokrim dont je parle, je signale quand même qu'il a été suspendu de ses fonctions par le ministre des Armées. On le dit pas, il le dit pas, Jean-Yves Le Drian. Donc il y a un problème avec ce garçon. Donc pourquoi est-ce que toute institution, moi je respecte le COS, évidemment elle nous a opposé avec l'image des deux membres des forces spéciales qui étaient morts pour libérer des otages, mais je trouve que c'est un peu crapuleux d'avoir fait ça, parce que franchement, c'est pas du tout le cas dans lequel on est placé. Moi, j'ai du respect évidemment pour ces membres de commando qui ont laissé leur vie pour sauver des Français. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de quelqu'un qui effectivement venait des forces spéciales, mais qui est soupçonné d'avoir, même s'il n'est pas condamné à terme, on verra, mais en tout cas, il est soupçonné d'avoir eu un rôle plus que louche dans cette affaire de contrat russe. C'est normal qu'on en parle. Et donc, à ce
et
titre.
Et donc, les deux principes ne se valent pas.
Mais bien sûr que non.
Non, mais il faut répondre à ça. Le journaliste, en tant qu'individu, en tant que personne privée, ne bénéficie d'aucune immunité. Ce n'est pas de ça dont
oui,
il s'agit.
Oui, c'est important de répéter ça, parce que on est dans une période de défiance à l'égard des journalistes.
C'est le travail des journalistes qui doit être protégé. Le journaliste a une fonction sociale. Il n'est pas là uniquement pour publier passivement des communiqués officiels du gouvernement. Par ailleurs, dans le cas des ventes d'armes de la France utilisées au Yémen, on parle quand même de la pire catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, entend-on dire, mais l'État non plus. Et là, de quoi il s'agit? Un secret peut être légal, mais on peut questionner sa légitimité. La sécurité nationale qui a été mise en avant par le chef de l'État Emmanuel Macron, par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, sur cette même antenne, pour expliquer, justifier ses poursuites. Ce secret, cette défense nationale, cette sûreté nationale, ne doit pas servir d'étouffoir à des sujets qui sont légitimes. Et donc, si vous voulez, dans le cas du Yémen, on parle de la France qui ne respecte pas les propres traités sur le commerce des armes qu'elle a signés.
J'entends bien, mais ce matin, on vous a invité pour vous poser au fond cette question-là. Est-ce que, au-delà de la méfiance classique des hommes d'État envers les journalistes, qui a toujours existé, est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'enquêter sous Emmanuel Macron?
Alors, je trouve qu'il y a un problème, effectivement. On l'a oublié. Mais quand Emmanuel Macron est élu, on a oublié que le premier été, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de réfléchir à son propre média. Comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon avec les malheurs qu'on connaît. Mais il y a réfléchi. Ensuite, je me souviens quand même que la ministre du Travail avait porté plainte contre Libération qui avait révélé l'une des ordonnances de la loi Travail avant qu'elle soit publique. Ensuite, nous, même chose, on avait raconté dans le monde le canevas de la loi sur l'audiovisuel public. Même chose, une plainte de la ministre de la Culture. Ça fait quand même beaucoup, et je rappelle quand même...
Donc quoi, c'est un cran... Vous qui avez enquêté sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, vous dites quoi? C'est plus préoccupant
Je pense qu'il y a une accumulation de faits qui commence à devenir inquiétante. Et ça, c'est un climat nouveau, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu avant.
On peut citer d'autres exemples, parce que là, effectivement, nous travaillons dans des rédactions constituées, on a les moyens de se défendre, de faire face. On peut parler d'autres confrères, d'autres journalistes qui bénéficient de moins de protection. Je pense à des confrères du Maine Libre ou de Ouest France, qui ont été convoqués par la gendarmerie parce qu'ils avaient couvert, donc ils avaient fait leur travail de journaliste, ils avaient couvert des décrochages de portraits d'Emmanuel Macron par des militants dans des mairies. Et à cette occasion, on apprend que toutes les gendarmeries sont priées de faire remonter les informations au bureau chargé des affaires de terrorisme.
Donc vous dites aussi qu'il y a quelque chose de préoccupant. Bah, écoutez, Libération titre aujourd'hui fait sa une sur la question et titre Emmanuel Macron s'emploie depuis 2 ans à, je cite, les mots sont durs, verrouiller l'information. Est-ce que vous iriez jusque-là? Bah,
écoutez,
vous trouvez que c'est
prenons par exemple, pour un exemple complètement différent, la couverture par les journalistes des manifestations de Gilets jaunes. Ça, ce sont des faits, ça a été documenté. Il y a un nombre très important d'incidents graves et de violences policière, selon notre confrère David Dufresne et selon Reporters sans frontières, contre les journalistes qui couvrent ces manifestations. Donc, c'est pas, si vous voulez, en cassant le thermomètre, les journalistes qu'on fait baisser la fièvre. Au contraire.
Je pense que ça peut aller au-delà du verrouillage. Si on repense à la petite vidéo qu'Ismaël Emelian, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, a fait diffuser sur un compte Twitter proche de la Macronie et qui mettait en scène d'abord un jeune homme qui n'était pas le jeune homme de la place de la Contrescarpe, qui lançait des chaises sur des policiers en faisant croire que c'était lui. Moi, je trouve ça grave.
Ariane Chemin, Benoît Colomba, merci à tous les deux. Belle journée à vous.